Ah, donc c'était le générique du film Captain America 79 que nous écoutions. Ah, un moment de grandiose et effectivement qui nous amène à parler du Vengeur étoilé qui a eu l'occasion d'une renaissance prochaine au cinéma, mais a également eu l'occasion d'une renaissance dans la bande dessinée. Donc Captain America était mort, enterré, on avait un successeur et pas un succédeur comme ceux qui viennent après dans les émissions, c'était un successeur puisqu'il l'a remplacé. Et donc là on nous annonce un nouveau retour de Captain America, le vrai, l'unique. Alors on aurait pu vous en parler il y a 3 mois effectivement quand le premier tome est sorti. On a décidé d'attendre que la fin sorte, elle est sortie effectivement cette semaine. Et du coup, on a pu, avec Stéphane, venir vous parler de Captain America Reborn, la série événement. Événement peut-être un peu tant que ça. Avant de vous parler de Captain America Reborn, rappelons quand même tout l'historique marketing de l'arrivée de cette série qui a amené à des spéculations les plus folles et à des déceptions grandes, tant effectivement les fans s'étaient lâchés pour imaginer ce qui pouvait se passer dans cette série. D'abord, la série n'a pas été appelée Captain America Reborn quand ils l'ont pré-sollicité, mais seulement Reborn. Et donc, comme tout le monde est à peu près intelligent dans les lecteurs de comics, on s'est tous dit, ça s'appelle Reborn, ils vont ressusciter un personnage. Mais au départ, on avait juste un nom. On avait le nom des auteurs, L. Brubaker et Brian Hitch, mais aucune idée sur qui allait pouvoir être le personnage principal de la série.
Enfin, ça laissait quand même... Il y avait quand même un léger petit indice. Alors, L. Brubaker.
L. Brubaker était un léger indice. Un peu plus tard, on a eu un deuxième indice avec l'affiche promo avec une étoile. Et là, tout le monde a commencé à dire « Captain America ? Ouais, mais non, ça peut pas être si simple, ça peut pas être Steve Rogers. Ils peuvent pas nous ressusciter Captain America. » Et là, tout le monde est arrivé sur qui ça peut être. Est-ce qu'on va avoir un troisième Captain America ? Est-ce que le Captain America actuel va mourir à son tour ? Est-ce que c'est un ancien Captain America qui va revenir ? On a pensé notamment à la résurrection du Captain America d'origine, le Black, celui effectivement dont le petit-fils est actuellement membre...
Patriote, qui était membre des New Young Avengers,
dont on a effectivement parlé plusieurs fois ici. Et donc, tout le monde était...
D'ailleurs, le Captain America noir qui était apparu dans Captain America...
The Trust,
Kevin... C'était Cal Baker en dessin.
Tout à fait. Donc on s'est dit, est-ce que c'est le retour du grand-père ? Est-ce que c'est le retour de son fils, enfin de l'oncle de Patriote, qu'on avait vu notamment dans la série The Crew, dont on avait parlé ici ? Et ou est-ce que c'est tout simplement Patriote qui pourrait reprendre le costume suite à la mort donc de Bucky, qui est actuellement devenu le nouveau Captain America.
Tout en sachant qu'en plus on avait le Captain America des années 50 qui aussi se trimballait quelque part.
Tout à fait, tu disais Arnaud ?
Je disais dis-le nous, vas-y. Yes.
Eh bien voilà, et là l'info tombe et tout le soufflet retombe. C'est bien Steve Rogers qui revient dans Captain America Reborn. Et là, un peu grosse exception, il était décédé depuis deux ans.
Et numéro 25, il a commencé à réapparaître un petit peu avant le 600, c'est ça ?
Ouais.
Donc 48 ou 49, en parallèle de la série, qui s'est retrouvé un petit peu en hiatus pendant un moment. Donc oui.
Voilà. Et donc, nous voilà avec Captain America Reborn, donc toujours par L. Brubaker, scénariste de la série, et d'ailleurs, en même temps, on a appris effectivement que la série Captain America était suspendue le temps de faire Reborn. La question c'est, avait-on besoin de faire une mini-série ? Et là, Stéphane, c'est à toi de nous dire ce que tu voulais nous dire sur Captain America Reborn, ce chef-d'œuvre de Brubaker. Non, peut-être pas.
Chef-d'œuvre, faut pas... faut peut-être pas abuser. Non, c'est un récit, enfin, soyons clairs, c'est quand même un récit qui est agréable à lire, qui est quand même bien mené, qui a ses bons petits moments de suspense, qui est admirablement servi au niveau graphique, graphisme par Brian Hitch et Jackson Goyles. Parce que là, c'est vrai que Jackson Goyles à l'ancrage. Faut quand même avouer que le travail de Brian Hitch et de Jackson Goyles s'accorde à merveille, et pourtant, et c'était quelque chose de pas forcément gagné. Et c'est même, l'osmose est même assez étonnante, parce que finalement, ça rend très 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 bien. Alors là, ils sont en train de se s'enquiquiner sur les.
C'est parce qu'on ne m'entend pas de l'autre côté.
J'adore la technique. Non, mais c'est vrai que ça donne. Brian Hitch était quand même quelqu'un qui était, qui avait été assez souvent attaqué pour son retard ou ses difficultés à rendre les travaux en temps et en heure. Et finalement, là, cette fois-ci, ça s'est pas trop mal goupillé. Mais surtout, finalement, les deux se sont très très bien accordés. Alors effectivement, sur certaines planches, on sent que quand même Hitch a dû prendre quelques raccourcis. Il a laissé peut-être un peu plus de marge de manœuvre à Jackson Goyles. Mais dans l'ensemble, il y a une forte homogénéité. Donc un dessin qui est très très plaisant. Et qui franchement, avec quelques planches qui... valent quand même le détour. Donc non, c'est pour ça c'est bien. Après, bon, Ed Brubaker est un excellent scénariste. Il sait mener son récit. Ça, on ne peut pas le lui retirer. À côté de ça, c'est quelque chose d'assez classique. Il n'y a pas.
Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Brubaker a fait un run qui, dans son ensemble, est mémorable sur Captain America. Servi par Epting, qui a fait un boulot magnifique.
C'est quand même un des runs les plus, les plus consistants qu'on ait eu depuis de très très nombreuses années.
Ah bah, un peu plus que le run de Greenwald, surtout sur la fin.
Oui, enfin bon, là, Greenwald, il avait des circonstances atténuantes.
Avait des circonstances largement atténuantes, c'est clair.
Mais c'est vrai qu'il aurait dû lâcher la rampe. Lâcher la rampe. Lâcher la série, pas mourir aussi vite.
Après, au niveau du reste de la série, ce qui est assez étonnant, c'est que Brian Hitch est quand même quelqu'un qui habituellement a un style très rond, avec souvent des ancrages assez gras, justement pour rendre ce style.
Oui, des ancrages comme la Paul Neri, qui joue un peu sur pas mal de coups de pinceau, alors que là, finalement, c'est vrai que ça le rend plus anguleux, un peu plus... un peu plus brut.
Et on a presque l'impression que dans ce choix, on a mis Brian Hitch pour le côté marketing, mais on veut quelque chose qui ressemble à du Epting. Et là-dessus, c'est assez étonnant de voir comment Jackson Goyles, qui a quand même un style qui, au départ, paraît totalement inconcevable pour en créer du Brian Hitch, fonctionne parfaitement dessus, et comment il arrive à normaliser le dessin. Qui du coup.
C'est quand même un caméléon, Jackson Goyles, quand même. Hein. Rappelle-toi, c'est Nick Fury à Agent of Shield qu'il avait dessiné.
Qui était fabuleux.
Qui était fabuleux, mais on voyait plus du Steranko ou du Gulassi. Alors que lorsque tu regardes Resurrection Man chez DC, on est sur un style qui est diamétralement opposé.
C'est vrai, après c'est effectivement surtout la notion d'ancrage qui peut jouer dans certains cas. Là c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir se limiter à être ancreur. Et sur ce coup là, c'est vrai que moi ce qui m'a étonné au départ, c'est que je me suis dit bah ouais, mais Brian Hitch il est excellent, mais pourquoi l'avoir mis là-dessus? Pourquoi avoir pris ce dessinateur dont déjà on sait qu'il n'arrive pas à faire les délais, avec le risque que ça représentait, sur ce projet pour... effectivement, pas l'affadir, parce que c'est tout sauf fade, mais pour le camoufler derrière Geiss. Il y a juste un moment où on se dit, Jackson Geiss a tellement fait de finition sur le titre, a tellement apporté à la série, qu'on aurait presque pu mettre un Jurgens à la place de Hitch et on se serait pas rendu compte.
Oh, c'est peut-être un peu dur.
C'est très bon, mais Dan Jurgens c'est également très bon, c'est pas la
parole. Oui, mais Jurgens c'est quand même aussi extrêmement tributaire du choix d'encreur. Hein.
Il est volontairement tributaire, parce que souvent il choisit lui-même ses encreurs pour faire de la finition et jamais de l'ancrage d'ailleurs, et souvent il fait que les layouts. Non, là en fait, c'est juste qu'au final, c'est quand même beaucoup plus, quand on le regarde, du Butch Geiss que du Brian Hitch.
Oui, oui, mais c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, c'est qu'il y a des moments, tu sens que, enfin, que sur certaines planches, pour tenir les délais, Pajanić a dû prendre pas mal le raccourci et qu'ils ont, qu'il a laissé beaucoup plus de latitude à. Beaucoup plus de latitude à Butch Goyce. Mais enfin, Pajanić est quand même assez souvent tributaire de ça. Tu regardes c'est un certain écrayonné sur les Ultimates, heureusement qu'il a Paul Neri derrière pour assurer quoi.
Ouais, enfin même dès les premières planches en même temps, le côté Jackson Guy c'est quand même hyper présent. Et c'est vrai que il y a des moments où on cherche un peu pour retrouver le style.
Là tu le retrouves quand même le style Ditch.
Ah non mais on le retrouve, c'est évident. Mais voilà.
Non, après, mais c'est vrai qu'il y a...
Après c'est quand même une série qui s'intègre dans un run complet, qui est d'une qualité indéniable. Le nouveau Captain America, au départ, personne n'y croyait vraiment. Il faut se rappeler que quand le premier design de costume a été sorti, ça a fait scandale parce qu'il tenait un flingue. Et tout le monde a dit Captain America ne peut pas avoir un flingue. En plus, le design est d'Alex Ross. Qu'Alex Ross, dans les interviews, on lui fait « on comprend pas ». À chaque fois qu'il y a des dessinateurs qui reviennent, des nouveaux looks, vous refusez de dessiner les personnages d'ici, d'ailleurs, dans les anciens, dans les nouveaux looks. Vous n'acceptez de les dessiner que dans l'ancien. Et là, sur Captain America, c'est vous qui faites un nouveau look pour remplacer le look des années 40. Donc c'est un peu paradoxal. Et là, il a fait « oui, mais avec Marvel, de toute façon, je sais que ça va pas durer ». Ce qui est assez impressionnant dans la manière dont il flingue lui-même son boulot en interview.
Oui, dans la manière. Voilà, c'est le à bout des bons chèques après, j'en ai rien.
Voilà, donc déjà, il flingue effectivement le mec qui l'a embauché. Mais... Il flingue tout le concept sur lequel il participe. Et c'est vraiment très étonnant de l'entendre dire
non,
ça.
Mais il n'est pas clair non plus. Son discours ne peut pas tenir. Parce que lorsqu'on voit ce qu'il fait actuellement sur le redesign des fantômes de toutes les séries Super Powers, enfin celles qu'il avait fait
tous les albums grand format.
Non, tout le travail qu'il a fait actuellement avec le chez Dynamite.
Oui, avec des personnages qui sont dans le domaine public.
Oui, mais enfin, il les remet aussi au bout du jour. Bon, faut arrêter.
Enfin, après, on sent bien qu'il y a presque un moment où ça devient peut-être plus un projet de Kruger sur beaucoup de choses qu'un projet venant de lui. Il a quand même un amour pour le Golden Age qui est évident. Là, ce qui était gênant dessus, c'est qu'il a relooké un personnage Golden Age, ce qu'il reproche à DC de faire, et pour lequel il encaisse le chèque chez Marvel.
Alors que DC, oui, et puis bon, enfin même une partie des. Lorsqu'on voit le travail qu'il avait fait. Mais il a quand même retravaillé sur des personnages. Regarde une partie des personnages qu'il avait refait sur le JSA. Lorsqu'il a travaillé en tant que co-scénariste sur la suite de Kingdom Come.
Oui, mais justement...
Il y a pas mal de personnages qu'il a aussi redesignés.
Il les a redesignés selon le design qui avait été fait à l'époque dans Kingdom Come.
Pas forcément. Le Black avec le A.
Le Black avec le A.
On avait vu quitter un des personnages qu'on avait vu apparaître dans les Superman. Le jaune.
Oui, oui, Amazing Man.
Voilà.
Bah, Amazing Man, il était déjà relooké dans ce look-là. On le voit avec ce look-là dans un fond de case sur le crossover, sur la mini-série de départ. Dans Kingdom Come, on a ce look. Et voilà, il n'y a pas de look qu'il ait créé à l'occasion. Ouais, il a juste réutilisé parce que, en gros, il dit... Mon chef-d'œuvre chez DC, c'est Kingdom Come. Je viens faire la série uniquement pour dire que Kingdom Come n'est pas un futur alternatif, mais le vrai futur. Et tous les personnages, il les a relookés, en fait, au moment de Kingdom Come. Et il a réutilisé des designs qu'on avait peu ou pas vus, parce que, effectivement, pour la plupart d'entre eux, ils étaient juste sur les fonds de case. Et il a réamené que des personnages qui étaient dans Kingdom Come. Et tous les relookages étaient liés à Kingdom Come.
Alors aussi, enfin, autre point qui moi me gêne un peu plus finalement, c'est ce que tu avais soulevé aussi en introduction, c'est est-ce qu'il était nécessaire de créer une mini-série à part Bon, mis à part le côté marketing, alors que finalement, ça se, c'est dans le droit fil du run de Brubaker sur le titre, sur le titre. Donc là, c'est un peu dommage parce qu'après, à côté, devoir mettre le titre en stand-by pour que jusqu'à ce que la mini-série soit finie, ils auraient pu l'intégrer dans le run complet, le faire débuter au numéro 600, et ça, à mon avis, ça aurait eu un peu plus d'impact.
Tout à fait, puisque de toute façon, on relançait aussi la série avec le numéro 600. On aurait aussi très bien pu la relancer, non pas sous le nom de Captain America, mais sous son nom d'origine. Test to Astonish.
Oui, mais non. Enfin, de toute façon, on n'est même pas dans la. Enfin, faut être clair, on n'est même pas sur une numérotation logique sur ce titre.
Ah, mais non, mais la numérotation, elle est logique sur aucun titre. Donc,
parce que quand on regarde sur le Golden Age, il s'est arrêté au numéro 76. Mm-hmm. Il a été repris après, effectivement.
Au 101.
Tale of Suspense.
Après, il s'en est passé au Tales of Suspense qui est.
Ils nous mettent des numéros où je pense, je suis pas tout à fait sûr qu'il y avait encore Captain America dedans. Ça, c'est très très fort.
Donc là, il est en train de regarder le 600 dans lequel on nous avait fait une galerie de toutes les couvertures.
Parce qu'effectivement, il y a quand même quelques numéros de Tales of Suspense. Je soupçonne surtout que c'est les histoires de monstres. Enfin bon. Parce qu'après, il avait partagé le titre avec Iron Man. Et on commence.
Oui, au 101, oui. Ça devient Captain America pour Iron Man à un numéro 1.
Oui, parce qu'après, Iron Man, lui, devenait Iron Man numéro 1 en 68.
Et donc, la numérotation de Tales of Suspense restait pour Captain America, dont le titre qui prenait en place le titre. D'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent pourquoi à l'époque, quand on avait des titres comme ça, on ne refaisait pas des numéros 1 à tout bout de champ et qu'on reprenait des numérotations qui existaient déjà.
Deux raisons.
Vas-y. La première, c'est qu'il y avait un impôt sur les numéros 1. Et qu'ils avaient.
Un impôt carrément ?
Oui. Oui.
C'est un impôt postal.
Voilà. Et donc, dès qu'ils lançaient une nouvelle série, eh bien, il fallait qu'ils payent. Alors que s'ils gardaient la même numérotation, on arrivait à des choses différentes. Et on a notamment Weird War Tales, je crois, chez DC, qui s'est appelé Weird Western Tales. Weird War Tales, et il y a dû avoir un autre titre en Weird Tales, et en fait ils réutilisaient le même titre, la même numérotation, avec des contextes diamétralement opposés, ce qui est un peu l'inverse de ce qui se passe actuellement en France où Panini est en train de nous relancer plein de ses hors-séries, parce qu'ils se sont juste rendus compte que la loi leur interdit de faire plus de 3 hors-séries sur un bimestriel.
Et pourquoi ça ?
Bah parce que tu peux pas faire plus de hors-série que de numéros dans la série. Ah c'est ouais. Le concept du hors-série.
Bah c'est un peu normal.
Et c'est un peu normal et du coup ils sont obligés de donner des noms de séries aux hors-séries pour que ce soit plus des hors-séries mais des séries à part entière. Et pour ceux qui veulent comprendre pourquoi les tests s'appellent saga, les extra, les machins, les trucs, c'est parce que effectivement ils lancent tellement de hors-séries que ben il y a plus assez de place. Il faudrait presque doubler la quantité des séries pour réussir à les passer tous. Mm.
Ils sont malins. Hein.
Et puis la deuxième, c'était explique aussi pourquoi il y avait autant de titres anthologiques chez Marvel au départ. C'est qu'en fait, ils avaient leur distributeur était DC à l'époque, au tout début du lancement de Marvel, et ils n'avaient le droit de lancer qu'un nombre limité
de séries. Donc effectivement, ça leur permettait de le faire. Mais c'est vrai que sur tous les numéros 1, c'est quand même quelque chose qui, pendant longtemps, ils ont limité au maximum les réglages de série. C'est vrai que quand on le regarde après coup, on se dit que c'est effectivement assez étonnant. Et voilà effectivement l'explication de cette manière de procéder. Donc quand même, sur Captain America Reborn, on va revenir à Captain America Reborn. Donc Reborn est une série qui ramène au retour de la série puisque Captain America donc, s'était arrêté au 600. Il y a un annual qui était devenu le 601. en parallèle.
Oui, parce qu'en fait, c'était le 601 qui est en fait un annuel qui est le dernier travail professionnel pour
à ce jour.
À ce jour de Jenny Colan, qui est quand même une légende vivante du comics, qui a 83 ans et qui avait livré tout un numéro en crayonné pur. Donc là, publié et mis en couleur d'une façon pas si mauvaise que ça, parce que des couleurs directes, des crayonnés de Colan,
ça fonctionne très bien.
C'est pas du tout évident, mais par contre, c'est vrai que, comme on en parlait la semaine dernière, pour avoir eu la chance de voir le tirage noir et blanc du bouquin, c'est vrai qu'on perd quand même. Et pour 83 ans, le pépère, il avait quand même encore du. Il faisait merde. Hein.
Voilà. Et il faut savoir que, quand même, dans le style, on a quelque chose qui en France est unique. On a la série limitée Curse of Dracula, qui était sortie en version française en crayonné noir et blanc, alors que la version américaine était sortie en couleur et ancrée. Et je pense qu'il y a plus d'un Américain qui envirait la version française.
Oui, parce que là, il avait fait un travail au niveau des crayonnés qui était extraordinaire.
Donc sur une série en plus qui avait été achetée par Marvel, elle avait commandée par Marvel, qui devait sortir à l'époque dans le label Strange Tales. Ils ont arrêté le label Strange Tales et donc, ils se retrouvaient avec quelque chose qui avait été commencé. Et donc, ils sont partis sur une autre piste, ils sont partis chez Dark Horse et ils ont fait la série.
Ce qui était une suite non officielle, en fait, de The Tomb of Dracula.
De toute façon, Dracula, c'est quand même un personnage qui est depuis bien longtemps dans le domaine public et où il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, quand même...
Oui, hélas. On le voit avec les X-Men maintenant.
Donc, la série, maintenant, de toute façon, continue. Elle a repris la numérotation Captain America. Elle est désormais dessinée par Luc Ross.
Oui.
Et avec toujours des ancrages de Jackson Geiss.
Oui. Et qui donne une continuité graphique à la série. Et ça, c'est vrai que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu une consistance. C'est qui est un petit peu le cas aussi sur les Daredevil, où il y a quand même une consistance graphique depuis le travail de l'arc. Et de tous les dessinateurs qui se sont succédés.
Voilà, donc de toute façon, tout cela amène évidemment à Siège, le prochain crossover.
Surtout que, enfin, faut quand même dire une chose, c'est que là, ils ont résolu d'une façon un petit peu. Parce qu'en fait, il y a eu Reborn. Quoi ?
La façon de le ressusciter est quand même très cavalière.
Oui, bon, c'est clair que c'est un poil capillotracté. Parce que être en dehors du temps tout en étant dans le temps. Oui, on a chat de Schrödinger revu corrigé dans le comics. Non, par contre, après, il faut bien comprendre que derrière, si on lit Captain America Reborn, il faut aussi lire un one-shot qui est sorti après, qui s'appelait Captain America, We Will Wield the Shield.
Et qui est donc intégré dans l'album qui vient de sortir cette semaine.
Et en fait, où on apprend qu'ils ont résolu cette question un peu... donc c'est vrai que ça lance Siège, mais ils résolvent d'une façon assez intelligente le dilemme porteur du bouclier, du manteau de Captain America. Et là, pour une fois, ils vont faire peut-être ce qu'ils vont... Ils sont en train de peut-être réussir quelque chose qu'ils n'arrivaient toujours pas à faire, d'intégrer un peu un côté legacy qui est quand même beaucoup plus courant chez DC. Et ça devient intéressant parce que finalement, Bucky avait pris ses galons en tant que Captain America et devenait aussi populaire. Et tout le monde trouvait dommage quand même qu'il redevienne le simple sidekick ou qu'il prenne une autre identité. Et là, il est toujours le porteur du manteau.
Je pense que c'est aussi une décision que Marvel a dû prendre vu le tollé, parce que c'est un tollé qu'a provoqué l'annonce de Reborn et du retour de Captain America.
Ouais, mais de certains côtés, à la limite, je trouve que l'idée est intéressante. Parce que c'est vrai que finalement, on peut voir les deux personnages coexister et derrière le nouveau rôle de Steve Rogers, on n'en parlera pas plus parce que c'est vrai que ça serait dévoiler Siège et
l'Heroic Age, donc
l'Heroic Age qui va suivre. Mais c'est une façon intelligente de résoudre le dilemme et surtout de repositionner les acteurs avec un nouveau statu quo et une nouvelle place dans l'univers Marvel. Donc voilà à suivre.
C'est vrai que dans toutes les successions qu'on avait pu avoir chez Marvel, tout le monde avait toujours attendu le retour du vrai. Et on n'avait pas...
Ce qui se passait dans chaque fois.
Voilà. Ce qui se passe moins facilement chez DC, où en général, ils ont gardé les successeurs beaucoup plus longtemps. Mais oui. C'est vrai qu'à l'image du nouveau Batman actuellement aux États-Unis, tout le monde s'attendait à ce que Bucky ne fasse pas le point en tant que Captain America. Alors que là, effectivement, ils ont réussi à l'imposer. Et du coup...
On lui donnait en plus une... Surtout... Enfin, ils ont réussi à l'imposer, mais surtout à le... Comment dire à le sortir de l'ombre de Rogers, de ce côté canonique, et surtout en ne perdant pas de vue le côté, enfin ce qu'il avait faisait aussi son originalité. C'était quand même quelqu'un au départ dans le tel qu'il avait été expliqué par Brubaker, c'était quand même un commando. Donc Captain America avait le côté un peu d'apparat, dans les relations publiques, etc. Lui, il faisait le dirty works. S'il y avait une sentinelle à égorger, c'était pas Captain America qui allait, c'était Bucky qui lui le faisait passer de vie à trépas. Et c'est vrai que ça donne un Captain America qui est pourtant quelquefois qui va prendre des solutions ou qui vont être un peu différentes.
Alors, ce qui est aussi assez intéressant quand même à voir, c'est l'origine, la manière dont Brubaker a travaillé cette série, comment il a eu l'idée. Qu'il a tout simplement travaillé à la résurrection de Robin 2. Et donc, voilà, toute l'histoire avec Red Hood qui se passe en parallèle chez DC sur Batman, eh bien, c'est celle-là. Puisqu'effectivement, à une époque, tout le monde a dit, mais alors, qui a eu l'idée en premier? Là, il y a Brubaker qui fait, écoutez... Je me sais un peu chez DC, comme nos histoires, on les prépare un peu longtemps à l'avance, plus chez DC que chez Marvel. Et en même temps, je savais exactement tout ce qu'allait se passer sur Batman sur les deux prochaines années. Donc, l'idée de départ, j'ai pas non plus été la chercher très loin. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a reconnu lui-même avoir fait un plagiat, tout en disant, attendez, je ne plagie que moi-même.
Mais ce qui devient assez marrant, c'est que DC, finalement, est en train de plagier la solution qui se dessine, qui avait été mise en place justement, enfin avec une petite différence, mais on repart un peu sur une même solution avec les deux Batman, parce que finalement, effectivement, Bruce Wayne est en train de revenir et va récupérer
la cagoule,
mais on va finalement avoir deux Batman comme Dick Grayson dans les plans originaux aurait dû redevenir Nightwing. Et que finalement le personnage aussi, les éditeurs ont été un petit peu dépassés aussi par le succès qu'il avait sous le rôle de Batman. Mais finalement ils vont être obligés de faire coexister deux Batman différents, alors pas sur les mêmes séries, pas forcément sur les mêmes univers. Enfin,
d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est quand il y a une image promo qui circule sur internet sur les 75 ans de DC, donc c'est un peu cette année, et on y voit Nightwing au costume. Donc effectivement, ils avaient bien prévu le...
Ah, celle-là, faut que tu me l'envoies. J'avais pas vu celle-là.
Et effectivement, ils avaient bien prévu de le ramener.
Ouais, non, mais donc c'est assez... Alors c'est assez marrant de voir que finalement, bon, ok, je t'ai plagié, mais finalement, t'es, je vais te choper le truc. Donc,
C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et de toute façon, c'est vrai que ça fait aussi partie des légendes qui, par la suite, amènent à se poser des questions facilement.